Parents et enfants, Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans ce temps difficile. Alors, j'ai beaucoup de textes à vous lire, environ 200. Mais je commence par le premier. Je pense que nous pourrions relire ce texte qui est souvent lu dans les mariages. Entre parenthèses, vous devez vous marier si vous êtes avec quelqu'un. Ça commence comme ça, la famille, non? On ne vit pas n'importe comment. On vit dans un mariage devant Dieu pour poser des fondations bibliques. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. Parce que le mariage a été la création de Dieu. Et si aujourd'hui il est un peu galvaudé, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on suive les idées du monde. Il faut qu'on soit à la coute de Dieu. Alors ce texte, ben voilà, le voici, c'est dans Éphésiens, chapitre 5. Tout le monde m'entend bien ? Il faut qu'aucune parole ne tombe à terre. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Parole du Seigneur à travers l'apôtre Paul aux églises de Dieu dans le monde entier. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Un chef, c'est un défenseur. C'est quelqu'un qui sait prendre de bonnes décisions, qui sait être responsable. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, c'est vrai que nous sommes soumis au Christ, non? Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église vit dans l'ombre de Jésus ou dans la lumière. Et il faut que l'épouse vive aussi toute très proche de son mari. Mais pour ça, il ne faut pas un mari qui tape, qui donne des coups. C'est un mari qui aime. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, verset 24, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme. Ben voilà. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. On dit amen à cette parole. Seigneur, qu'elle s'accomplisse, nous voulons la pratiquer. Nous ne voulons pas être des gens qui écoutent et qui ne font jamais. Nous voulons honorer le mariage, aimer nos enfants, notre épouse, notre mari. Nous voulons nous aimer comme des frères et sœurs et nous voulons prendre soin les uns des autres. Amen. Le salut a commencé dans les familles. Abraham, Isaac, Jacob, avec des parents et des enfants. Et le salut continue dans les familles. C'est le plan de Dieu. L'Église est une famille aussi. La famille, c'est l'école du royaume. C'est là que l'on apprend à pardonner, à encourager, à aimer, à prendre soin. C'est là qu'on apprend l'amour, la charité. Mais ça ne se fait pas sans Dieu. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent vont travailler pour pas grand-chose. Frères et sœurs, nous devons avoir dans la maison une bonne entente, un mariage célébré devant Dieu, certes, mais aussi une bonne entente. Jésus disait, toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si la femme maltraite son mari, si le mari maltraite la femme, s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a que des disputes, chacun pour soi, la maison ne pourra pas aller très loin. La Bible dit, celui qui rend le mal pour le mal ne quittera pas sa maison, dans les Proverbes. Bien sûr, je le sais moi-même, parce que j'en ai fait l'expérience, bien sûr, il faut préférer le Christ à sa propre maison. Si quelqu'un n'aime pas plus que son père, sa mère, ses enfants, il n'est pas digne du royaume. Il faut préférer, il faut que le Christ soit au centre, en premier, dans nos pensées, bien sûr. Mais ça ne supprime pas la famille. Je ne peux pas dire à ma mère, à mon père, je ne vous aime plus parce que maintenant j'aime que le Christ. Ce ne serait pas équilibré, ce ne serait pas chrétien, ce serait anti-Dieu. Mais il y a des priorités. Jésus lui-même, il a été décisif, clair. Il a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Voulant dire, mon salut, ce n'est pas une histoire de famille, comme les rois de France, de père en fils. Le salut, c'est une histoire où chacun peut entrer, tous ceux qui ont la foi peuvent entrer. Et le Christ, finalement, il remet sa famille à sa place. Mais il ne supprime pas sa famille. À la croix, il a été admirable. Voici ta mère, à Jean l'apôtre. Voici ton fils, en parlant à sa mère. Donc il a honoré la famille, parce que ça vient de lui. Si on n'est pas dans la famille, dans le mariage, si on n'est pas bien en... On peut ne pas se marier, bien sûr, quand on veut vivre seul. Mais si on veut vivre et avoir des enfants, il faut se marier. Sinon, on est en contradiction avec la parole de Dieu. Jésus honore la famille. Il va rendre la petite fille Jaïrus, il va la rendre à ses parents. Il va rendre l'enfant tourmenté à son père. Il répare les familles. On aimerait qu'il nous rende nos enfants qui se sont égarés. On ne sait plus où ils sont, leurs pensées ont dévié. La famille ne disparaît pas parce qu'on est chrétien. Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il est pire qu'un païen. Il a renié la foi. Vous avez entendu? Ce qu'il veut dire, c'est que Il n'est plus dans la foi. Il dit avoir la foi, il chante, il crie, mais il n'est plus dans la foi parce qu'il a supprimé l'un des plus grands commandements qui tient l'univers, le respect et l'amour pour sa propre famille, sur tous les parents, les grands-parents, si nous en avons, et l'épouse, et les enfants, et le mari. La famille n'est pas à côté de la Bible. Elle est appelée à entrer dans le salut, comme toutes les familles de la terre seront bénies en toi, disait Dieu à Abraham. Et je pense à toute la famille de Corneille qui s'est convertie, toute la famille s'est convertie. Je pense à Timothée avec ses parents, ses grands-parents, une histoire de famille. Toute notre famille est appelée à entrer dans le salut. Ils font partie de l'Alliance. Pour qu'on puisse dire, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons parmi nous des gens qui sont sans leur famille parce que la famille ne suit pas. Je pense qu'il faut vraiment prier pour nos enfants. Il faut que ce soit un devoir quotidien. Je pense que le Saint-Esprit en vous, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit prie par des soupirs inexprimables. Il prie pour nous et nos enfants. Je crois vraiment. Et je pense que nous devons gémir aussi, comme le Saint-Esprit, sur des enfants qui ne sont pas là, qui suivent des voies de mort. Dans l'Apocalypse, il est dit que nos œuvres vont nous suivre dans le ciel. Vous connaissez de plus belle œuvre que l'œuvre du salut de votre fils, de votre fille. Seigneur, que nos enfants nous suivent dans le royaume de Dieu. Amen. Tous nos enfants. On a besoin de prier parce que la famille, c'est aujourd'hui la cible, la flèche enflammée de l'ennemi. On nous envoie des flèches de rébellion. Nos enfants parfois sont rebelles à l'église, rebelles aux parents. On nous envoie des flèches de séduction pour que le monde les attire et les dévore. L'apôtre Paul, quand il écrit à Tite, il dit que des gens bouleversent des familles entières. Et c'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous ferons demain. Des grands bouleversements attendent la planète, pas seulement au niveau de l'environnement, la fonte des glaces, etc., qui sera catastrophique, mais également au niveau de l'économie, au niveau politique. Nous allons vers un abîme. Le nouveau président des États-Unis fait peur à la planète entière. On ne sait pas ce qui va se passer. Et partout montent dans les nations des dictatures, une floraison de dictatures. Et je pense que nous devons discerner les signes des temps. Il y a 7,5 milliards d'habitants sur la Terre. On m'a dit que 8 personnes qui environnent le président des États-Unis, 8 personnes ont autant de fortune que 3,5 milliards de personnes. Dites pas amen parce que c'est pas beau. Autant de fortune que la moitié de la planète. Que vont devenir nos enfants? Il faut qu'on discerne les signes des temps. Aujourd'hui, le diable sème une ivraie partout. La réussite. Il faut réussir. Bien sûr, il nous faut avoir un travail stable. Il nous faut avoir de l'argent pour nourrir la famille, mais cette réussite à tout prix, le plaisir à tout prix, qui nous fait même dépasser les commandements du Seigneur, parce qu'il faut à tout prix réussir. La famille chrétienne doit recevoir un enseignement aujourd'hui. Il faut le donner dans l'Église. Mais elle commence, l'enseignement, il commence dans la famille. Au commencement, c'était les familles qui donnaient l'enseignement. C'est la famille juive, les familles chrétiennes, pendant des siècles, des millénaires. C'est pas nouveau. La famille chrétienne, elle a un ministère. Elle doit montrer ce qu'est une famille chrétienne. C'est quoi une famille chrétienne? Une famille où l'on regarde la télé du matin au soir, où l'on passe son temps acharné à regarder l'ordinateur, ou une famille où on prend le temps de regarder autour de soi, de parler ensemble, de réfléchir, de prier. C'est pourquoi, au commencement, les responsables des églises devaient, c'était un critère. On ne leur demandait pas s'ils connaissaient plusieurs langues. Au commencement, on leur demandait que les responsables dirigent bien leur famille. Parce qu'il fallait des exemples. Qu'ils dirigent bien leurs enfants. Sinon, dit l'apôtre Paul, qui avait raison, sinon l'adversaire médira. Il y aura des médisances de l'adversaire. Mais qui est l'adversaire? Satan, mais aussi tous ceux qui murmurent dans l'Église. Tous ceux qui murmurent, qui cherchent la petite bête. Alors, s'ils voient un pasteur qui, dans sa famille, vraiment fait n'importe quoi, ils vont médire contre lui, bien sûr. Et le diable aussi va médire contre lui. Et l'apôtre dit non, il faut éviter, il faut fermer la bouche de ces gens, et il faut que le diacre, que le pasteur, l'ancien, soit irréprochable. Il y avait donc une morale familiale, une morale chrétienne pour les familles. Il faut rappeler, hein, il faut que le mariage soit devant Dieu, il faut que les enfants soient enseignés, parce que si le mariage vraiment est bien vécu dans la foi, les enfants, dira l'apôtre, ils sont saints. Il faut bien qu'ils sont parfaits, ce n'est pas des petits saints, comme on dit parfois. Ils sont saints, ça veut dire qu'ils participent à la bénédiction de l'alliance en Christ. Ils participent à la bénédiction qui est sur la famille. Même si la femme n'est pas chrétienne, elle participe à la bénédiction. Si le mari n'est pas chrétien, et la femme oui, il participe à la bénédiction. J'aime bien une parole de l'apôtre Paul, il dit « Si les racines sont bonnes, si les racines sont saintes, un arbre, les racines, les branches seront bonnes. Si les racines sont saintes, les branches seront saintes. » Là, quand il dit ça, il voulait dire « Si, comme Abraham est une racine solide, sainte, les branches sont saintes aussi. » Ça suit. Si l'Église a des racines en Christ, la descendance, les enfants qui viendront après nous, seront protégés, appelés. Parce que le mot « saint », ça veut dire « réservé pour Dieu ». Vos enfants qui ne sont pas là, vous ne pouvez pas forcément les obliger, vous ne pouvez pas forcément les convaincre, ils ne sont pas là. Mais quand même, je dois vous dire qu'ils sont quand même réservés pour Dieu, ils sont attirés par Dieu, ils sont protégés par Dieu, parce que vous êtes là et parce que vous priez et parce que le Saint-Esprit en vous prie pour eux, que Dieu soit béni. Amen. Donc il faut que le Père, c'est beaucoup le Père quand même, aujourd'hui il y a une démission des Pères, il faut que le Père maintiennent l'alliance avec Dieu, dans une vie conforme à Dieu, pour que la famille soit bénie. Moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement. On a lu le texte ensemble, on a lu Éphésiens 5. Et tout commence avec les parents qui doivent s'aimer. La bénédiction de la famille, elle vient de Dieu, mais elle commence avec les parents qui doivent s'aimer. Marie, aimez vos femmes. Femmes, suivez votre mari. Ne vous fâchez pas. Vous savez, les disputes dans une famille, c'est une tragédie. C'est comme ça que les enfants, dès qu'ils peuvent, ils s'en vont. Et c'est comme cela qu'il y a des blessures profondes, traumatisantes, psychologiquement, physiquement, c'est traumatisant de voir des parents qui se déchirent, qui se dévorent. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, eh bien, si dans la famille, il y a vraiment une bonne entente de l'amour entre le père et la mère, parfois, on n'est pas très bien, mais tout se passe en secret. Mais devant les enfants, on ne se déchire pas. Eh bien, les enfants vont être beaucoup plus enclins à honorer leurs parents. Enfants, honorez vos parents. Honorer, ça veut dire donner de l'importance à vos parents. Pour vous, ils sont importants, ils ont une grande place, écoutez-les, respectez-les, honorez leur travail, tout ce qu'ils ont fait pour vous dans le passé. Donnez de l'importance, ils ne sont pas négligeables. J'ai vu parfois, en écoutant la météo à la télévision, parents mode d'emploi, je mets 0 sur 20. 0 sur 20, c'est déplorable. Ce mépris, ils ont pris deux petits-enfants, un grand et un petit, et puis une petite fille, et ils leur ont donné de faire la moue, de mépriser les parents. Ça, c'est vraiment la semence de Satan, contraire à la parole de Dieu. Que le père et la mère s'aiment vraiment. Deuxièmement, que les enfants apprennent à donner de l'importance aux parents. Et puis, il faut instruire par les pères. Pères, instruisez vos enfants, élevez-les, éduquez-les. Selon le Seigneur, parce qu'il faut que le père soit la courroie de transmission. L'enseignement passe par le père. Les petits juifs disaient autrefois, « Papa, pourquoi on mange des herbes amères aujourd'hui ?»« Parce que, mon fils, autrefois, on est sorti d'Égypte dans beaucoup d'amertume et le Seigneur, notre Dieu, nous a délivrés et nous a donné ce bon pays où il y a du lait et du miel. »« Ah bon, papa, c'était comme ça ?»« Oui, mon fils, c'est comme ça. » Voilà. Profiter des fêtes. Pâques, c'est quoi ? Un week-end. Pentecôte, c'est quoi ? Un week-end. Autrefois, c'était la fête pour se souvenir de Dieu, de la moisson, des bénédictions. Tout cela est indispensable. Il faut que les parents soient les représentants de Dieu. Il faut qu'ils aient les gestes de Jésus, les paroles de Jésus. Il ne s'agit pas de réciter l'évangile pendant une heure à nos enfants tous les matins, mais il faut que nous puissions avoir l'attitude chrétienne parfaite. C'est important la transmission de la parole de Dieu. Le pasteur ne fera pas tout, les responsables des écoles du dimanche ne feront pas tout. C'est pour moi, à 99%, ce sont les parents qui le font. Ne démissionnez pas, mes frères et sœurs. Si nos enfants ne reçoivent pas, je reprends une parole de Jésus, mais j'ai un peu de mal à la dire, je vous avoue. Si nos parents, si nos enfants ne reçoivent pas la parole, demain, dira Jésus, devant le tribunal là-haut, ils nous accuseront. Ils nous accuseront, comme autrefois il a dit ça concernant les gens de Ninive qui accuseront les habitants du temps de Jésus. Vous avez eu Jésus, vous n'avez pas cru. Et nous, à Ninive, on n'a rien eu et on a cru. Et si on ne leur transmet pas, nos enfants nous diront demain, vous ne nous avez pas instruits sur l'Évangile. Vous ne nous avez pas donné la parole de Dieu. C'est compliqué, oui. C'est un défi qu'il faut remporter. Ce n'est pas que des spécialistes d'école du dimanche. Les parents doivent être tous des spécialistes et des généralistes. Vous connaissez ce passage du Deutéronome. Les paroles que je te dis aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu en parleras quand tu iras en voyage. Tu en parleras et tu les mettras sur tes mains et tu les mettras sur ton front. L'autre jour, j'étais à la synagogue et c'était le commencement du Shabbat. Et puis je voyais le rabbin qui mettait ses les tifilim, l'espèce de lanière autour du bras, en récitant la parole, écoute Israël, l'Éternel est le seul Seigneur, etc. Il mettait les lanières sur les doigts, entre les doigts, puis il mettait ce petit coffre sur le front et sur le bras. Alors je savais, mais je voulais dire, mais pourquoi vous faites ça? C'est la parole de Dieu, tu les mettras sur tes bras, sur tes mains et sur ton front. Alors j'ai dit, vous appliquez ça à la lettre. Pour nous, on pourrait le faire, mais le plus important, c'est que la parole de Dieu, on sache en parler quand on travaille sur tes mains, qu'on sache en parler parce qu'elle est dans nos fronts, je veux dire dans notre esprit, que la parole de Dieu soit avec nous dans nos voyages, que ce soit tout soit l'occasion de dire une parole sur Jésus. Que Dieu vous aide. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu en parleras quand tu iras en voyage. La Bible, c'est le livre de notre, c'est le livre de famille. C'est le livre du culte de famille. C'est nouveau, c'est la nouveauté, c'est moderne, mais c'est dommage. On a du mal à faire le culte de famille. Allez les enfants, c'est l'heure, on va faire la prière ensemble. On va ouvrir la Bible, le papa va lire un texte, on va donner un tout petit commentaire de 2 minutes, 3 minutes par rapport à la journée, puis on va prier d'après les paroles, pas prier à côté, on va prier d'après les paroles. Il faut que ces paroles soient dans nos prières. Allez les enfants, on éteint la télé, le portable, l'ordinateur, on éteint, on ferme la fenêtre, les portes, et on prie le Seigneur ensemble, le culte de famille. Si nous vivons dans les délices, si nous travaillons sans cesse, si nous vivons que pour travailler, pour se faire de l'argent et acheter des maisons et des voitures, nos enfants passeront à côté du salut. Il faut qu'on gémisse. En Égypte, les enfants d'Israël gémissaient. Ils avaient de quoi manger, ils avaient des poireaux, des oignons, ils le disent. Mais ils gémissaient parce qu'on jetait dans le Nil leurs petits-enfants. Ils gémissaient et leurs gémissements sont parvenus aux oreilles de l'Éternel tout en haut. Je pense qu'il faut qu'on soit plutôt comme Jochebed, la maman de Moïse, qui dans ce désastre-là où les enfants étaient maltraités, massacrés, Jochebed a dit, je pense avec son mari, nous allons sauver notre petit. On va changer quelque chose à notre emploi du temps. On va changer quelque chose à notre façon de vivre. On ne peut pas faire tout. On ne peut pas courir vers le succès, l'argent et les voitures et les maisons et puis réussir avec les enfants. On va changer quelque chose. On va faire un petit couffin. On va l'appeler un petit Moïse. Puis on va mettre le petit enfant sur le Nil et on va le confier à la miséricorde de Dieu. C'était beau, hein ? Il fallait le faire, hein ? Il faut que l'on confie, il faut qu'on profite des fêtes religieuses pour parler sur l'Évangile. Il faut qu'on profite de tout. On a besoin de revenir à de l'ordre dans nos familles. On a besoin. Et puis, on a besoin d'enseigner à nos enfants, je reprends l'apôtre Paul qui disait, « Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable à Dieu. » Agréable à Dieu. C'est un devoir vital, le respect des parents. C'est vital. Si nous n'apprenons pas ça à nos enfants, c'est pas facile, je vous l'accorde. Si nous n'apprenons pas ça à nos enfants, nous allons annuler la parole de Dieu et nous allons suivre la mentalité du monde qui est rebelle aux parents. Alors, il faut qu'on enseigne le respect, dire bonjour, pardon. Je rappelle... Mais je vais vous demander d'ouvrir la Bible pour cela, parce que c'est trop important, et je vais terminer. Ouvrir la Bible dans 1 Timothée, chapitre 5. Ce passage est trop important pour que vous l'écoutiez. Si vous écoutez seulement, vous allez oublier. Il faut que vous regardiez. 1 Timothée 5, verset 4. « Si une veuve a des enfants, aujourd'hui on dirait que les enfants la mettent dans une maison de retraite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. Hein. On va la mettre à l'hospice, comme on disait autrefois. Bon, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui. On n'a pas des maisons capables de recevoir tous les grands-parents, les grands-oncles, les grandes-tantes. Mais écoutez quand même, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété, c'est-à-dire le service de Dieu, envers leur propre famille. Il y en a qui veulent servir Dieu au bout du monde. Attention, ils sont prêts à payer l'avion. Paul dit, premièrement, prends soin de ta vieille maman, ton vieux papa. Qu'ils apprennent, je répète, à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Et au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, je vous l'ai dit tout à l'heure, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, ça c'est dur, mais c'est la vérité, il est pire qu'un infidèle. Et au verset 10, les veuves qui étaient employées à l'époque pour s'occuper dans l'église, écoutez bien, qu'elles soient appliquées, ce n'était pas n'importe quelle veuve, ce n'est pas la veuve qui disait « Oh, moi ça me plairait, tiens, après tout, j'ai rien à faire ». Écoutez bien, cette veuve qui servait Dieu dans l'église, qui avait un rôle de diaconesse, qui était même payée par l'église, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Amen. L'éducation se fait là. Elle se fait dans la famille où il faut que dans des gestes simples, que les enfants voient que les parents savent ouvrir leurs portes, savent écouter les malheureux, savent laver les pieds des saints. À l'époque, quand quelqu'un arrivait de voyage, on lui lavait les pieds. Mais ça veut dire pour nous que les parents sachent être respectueux et dévoués. Souvent, ceux qui venaient, c'était des pasteurs, c'était des hommes de Dieu qui allaient de ville en ville. Alors, ils avaient beaucoup marché, puis on leur lavait les pieds. Ça voudrait dire aujourd'hui, il faut que la famille voie le respect envers le pasteur et voit le dévouement envers l'Église. Il faut que les enfants, les petits, le voient, sinon les enfants, ils vont mépriser tout ce que nous méprisons. Ils vont bannir ce que nous bannissons de notre vie. Et il y aura un manque, un vide, une grande lacune dans leur vie qui sera irrécupérable. Il faut que la famille soit accueillante pour enseigner. Et puis, il faut que les paraboles de Jésus dans les familles, ce soit des moyens de vivre. Par exemple, l'enfant qui reçoit un ordre de son père, « Va travailler à ma vigne !» Vous savez l'histoire. Il a dit « Oui, j'y vais, papa !» Puis il n'y est pas allé. Puis l'autre, il a dit « Non, j'irai pas !» Puis il est allé. Les enfants, il faut suivre. Il faut suivre aussi les vôtres. Mais toutes ces histoires, il faut les vivre en famille. Il faut que ce soit l'occasion de dire, eh bien, tu sais, il y a un enfant qui avait dit non, mais finalement, il s'est repris, puis il a dit oui, après, puis il est parti pour faire la vaisselle. Puis l'enfant qui demande du pain à son père, c'est l'occasion à table de dire, eh bien, nous avons un père dans le ciel, et quand on lui demande quelque chose, il nous le donne toujours. Et puis quand un enfant revient et demande pardon, il a fait une bêtise, l'occasion de parler du fils prodigue. Et de donner le pardon, de se réjouir, de partager les peines ensemble. Mon fils, nous t'attendons, tu es parti loin, nous t'attendons, nous t'attendions avec ta mère. Frères et sœurs, je vais terminer là, on en reparlera. Je vais terminer en vous disant que si dans nos familles, la vie chrétienne s'épanouit, si on prie pour la famille, je pense que la famille, les familles de l'Église, parce que l'Église, ce sont des familles, les familles de l'Église vont donner de la force à l'Église. Je vous parle franco. Pour moi, avec les expériences que j'ai faites, les faiblesses de l'Église sont les faiblesses des familles. Quand c'est bancal dans la famille, dans l'Église, il n'y a pas la force, on n'est pas là, on ne peut pas, on n'a pas le temps, on est absent, on ne répond pas, etc. Parce que c'est bancal chez nous, et puis on s'occupe de choses qui sont inutiles, et on n'a pas le temps pour s'occuper premièrement du royaume de Dieu et de sa justice. Les familles solides, c'est une Église solide. Les familles solides inspirent l'Église. Les familles solides, c'est l'avenir de l'Église. On disparaîtra, il y a des anciens qui vont disparaître bientôt dans l'Église, je vous le dis, il y a des gens qui sont très âgés. Mais si les familles sont solides, eh bien, on partira, je partirai aussi, on mourra, mais on est assuré qu'il y aura de l'avenir. Mais quand tout repose sur quelques personnes qui font tout parce que les autres ne peuvent pas, n'ont pas le temps, ne peuvent pas répondre, ne peuvent pas rien faire, eh bien, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y aura après nous ? Il faut que la famille prenne le relais. Amen. Puis quand on a une belle vie de famille, eh bien, ça éclaire notre vie de relation, d'église. Par exemple, l'apôtre Paul, il voyait dans Timothée, dans Tite, dans Philémon, il voyait ses enfants. Il faut qu'on soit les enfants de quelqu'un dans l'Église. Et il disait d'honorer les sœurs âgées comme des véritables mères. Il disait d'honorer les jeunes filles, d'honorer les autres comme des véritables sœurs, qu'il n'y ait pas de compromis, qu'il n'y ait pas d'imagination pornographique. Non, il faut que ce soit beau, clair, limpide, soit propre. Propre dans nos pensées, propre dans notre langage, dans notre regard. Il faut qu'on soit une famille qui s'aime, où il n'y a pas d'ambiguïté. Une famille comme une mère. L'Église est une mère. Je conclue avec une petite histoire vraie. Ils étaient partis pour une fête. Vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous dire. Ils étaient partis pour la fête avec leur 6 ou 7 ou 8 enfants, je ne sais pas, c'est une belle petite famille. Belle petite famille. Et puis, au retour, ils ont compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en manque un. Oh, c'est mal. Il en manque un. On a fait 3 jours de voyage, on ne s'est pas rendu compte qu'il en manquait un. Vous savez qui c'est ? Jésus. Les parents sont allés à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et l'enfant Jésus qui avait 12 ans, ils l'ont perdu de vue, ils l'ont oublié. Ah, je pensais qu'il était là, ah, je pensais, mais non, c'est toi qui m'as dit que tu le prenais. Non, c'est toi qui me l'as dit. Dispute. Et l'enfant Jésus n'est pas là. Ils ont perdu Jésus. Seigneur, c'est un peu triste que je vais vous dire, mais Jésus, c'est un membre de notre famille. Amen. Et si on perd Jésus dans la famille, si on ne parle plus de lui, si on ne lui parle plus, s'il est après le travail, après les loisirs, après les vacances, après la télé, après... La famille va s'arrêter à un moment donné. Il faut qu'on retrouve Jésus, membre de la famille. Jésus au milieu de nous. Vous savez, les promesses de Jésus, c'est pour l'Église et pour la famille. Quand il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu, sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Amen pour ça ? Et nous, à quoi on pense ? À l'Église. Et moi, vous savez à qui je pense ? À la famille. Papa, maman. Quand on a une famille, mais on a toujours l'occasion de se réunir avec quelqu'un aussi. Papa, maman, les frères, les sœurs, je suis au milieu de vous, dit Jésus. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Alors nous, on pense toujours, il faut que je téléphone à la sœur Intel qui habite aux États-Unis. Ma sœur, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais le Seigneur dit, mais tu as à côté de toi un mari. Tu as à côté de toi une épouse. Tu as à côté de toi des enfants. Dis-leur qu'ils prient et que vous priez ensemble d'un commun accord. Et moi, je vous exaucerai. Amen.